Donc, la dernière fois, on a parlé des dilemmes d'éthique médicale. Les médecins et toutes les équipes de sauveteurs sont amenés dans la vie à faire des choix très difficiles. Parce que s'il y a un type qu'il faut sauver, bon, c'est pas compliqué. Mais si des fois, il y a deux types à sauver et on ne peut pas sauver les deux, alors qui on choisit? T'as un vieux pépé de 80 ans, t'as un beau jeune de 20 ans. T'as un riche, t'as un pauvre, t'as un copain, pas un copain, t'as du même parti que toi, des trucs terribles dans la guerre. Bon, alors au niveau de l'Halakha, il faut comprendre que quand on parle de sauver une vie, nous, en tant qu'être humain, ne pouvons pas décider avec des critères humains qui ont fait passer avant, parce qu'on est peut-être un assassin si on s'est trompé. On ne peut que s'en remettre à celui qui a donné la vie, que je beaucoup, qui a donné sa Torah, en tant que personne qui sait que la Torah est d'origine divine. On agit d'après la Torah, on n'a aucun doute. On sait qu'on fait ce qu'on doit faire. En cela, quelqu'un qui est un juif pratiquant, sachant que la Torah est d'origine divine, je dis bien pas croyant, sachant, parce que, comme tout le monde le sait, aujourd'hui c'est preuve à l'appui, c'est très simple. Donc il sait qu'il ne se trompe pas. Ce n'est pas au flair qu'il y va. On ne peut pas se permettre d'aller au flair quand il s'agit maintenant de questions de vie ou de mort. Alors il est très clair au niveau de l'Halakha, hein, on ne fait aucune différence entre quelqu'un qui est jeune et quelqu'un qui est vieux. Tu n'es pas le propriétaire de la vie pour savoir maintenant si quelqu'un mérite plus de vivre que l'autre. Quels critères nous aurons? D'abord, il faut porter au niveau du concept. Pourquoi quelqu'un qui est plus vieux aura-t-il la même chance d'être sauvé que quelqu'un de plus jeune? Lui, il a encore toute la vie à vivre. Vu que nous ne savons pas quel est le pourquoi et le comment et la valeur de la vie, on ne sait pas qu'est-ce que quelqu'un fait maintenant en 7 minutes, quel est son rôle. On n'a pas le droit, nous, de venir maintenant et dire, voilà, toi, tu as moins de temps à vivre, donc on va passer outre ta vie pour choisir quelqu'un de plus jeune. Par contre, si nous avons un autre critère, deux personnes arrivent en même temps à l'hôpital. Il y a une seule chambre d'opération. Les deux sont dans le même état critique. Il y en a un qui a plus de chances de survivre dans l'opération que le deuxième. Au niveau statistique, encore une fois, on ne sait pas, on peut se tromper, parce qu'il s'agit tout de statistiques. Mais on a une loi dans la Torah qui dit En lo la dayan, ella machin avrot. Le dayan, le juge, n'a que ce que ses yeux voient. On ne demande pas au juge d'être un prophète, de voir ce qu'il ne voit pas. Il doit faire les interrogatoires les plus précis, les plus profonds qu'il peut faire, mais à un certain moment où ses capacités s'arrêtent. Et on ne peut pas le juger sur une chose qui ne dépend pas de lui. Si tu as un grand magouilleur qui vient, qui arrive à entourlouper tous les enquêteurs et tous les juges, et pour finir, il sort innocent alors que c'est lui le vrai coupable, est-ce que maintenant le juge sera puni là-dessus, quand il va voilà, là-bas, voilà, t'as innocenté le grand magouilleur? Non. Moi, j'ai fait d'après ce que je voyais. D'après ce que je voyais, c'est ça. J'ai fait mon boulot, mon job, de la façon la plus sérieuse qu'il puisse y avoir. Le médecin aussi. Ou les médecins qui doivent choisir maintenant qui on fait rentrer en premier en salle d'opération doivent regarder d'après les statistiques, d'après les chances médicales, d'après les chiffres habituels, qui a plus de chances de survivre. Et c'est lui qui aura la priorité. Bien que, on ne sait pas, peut-être que celui qui a plus de chances de survivre, peut-être il est marqué dans le ciel qu'il doit vivre plus qu'un mois. Et l'autre, il a encore 80 ans à vivre. Ou peut-être que c'est faux, même ton calcul statistique, c'est vrai dans la statistique. T'as quelqu'un à 40% de survie, l'autre à 80% de survie. Mais même sur les 80% de survie, peut-être qu'il y a partie des 20% qui ne vont pas survivre. Ok, comme je dis, on n'est pas des prophètes, on n'est pas Dieu, on est l'être humain. L'être humain me dit maintenant, entre quelqu'un qui a 20 de chance, 40% 40% de chances de survie, un autre 80%, je vais passer d'abord celui de 80%. Sur quoi on se base? Les deux grands possibles qui ont dit, c'est l'Armoche et Feinstein, et le Razonich aussi. Ils disent d'abord Svarapshuta. C'est une logique claire. Pas besoin de faire un doctorat en Rabbanout, d'accord, pour savoir que entre quelqu'un qui a plus de chances de survie et quelqu'un qui a moins, alors tu vas faire celui qui a fait rentrer celui qui a moins, il va survivre. Il a moins de chances de survie. Tu vas peut-être le faire, mais peut-être pas, et dans ce cas-là, tu perds peut-être l'autre. Au bout du compte, tu as plus de risques de tuer les deux. C'est évident. Au niveau ilhadique, on peut aussi entériner cela. La chose qu'on a déjà mentionné la dernière fois, le cas de Gehazi, j'ai déjà raconté l'histoire, Gehazi, donc c'était ce lépreux, avec ses enfants, qui étaient en bordure de la ville de Jérusalem, qui était sous le siège des Syriens, et il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps à vivre parce qu'il est en train de mourir de famine, et il se rend dans le camp des Syriens, se disant, si jamais les Syriens me font mourir, bon, alors je mourrai un peu plus tôt, mais s'ils me font vivre, alors j'ai gagné une vie beaucoup plus longue. De là, on voit qu'on a le droit de mettre en danger notre vie courte pour en doute avoir une vie longue. Ça, c'est pour une même personne. Maintenant, si moi, ce n'est pas la même personne, ce sont deux personnes. J'ai ici maintenant quelqu'un qui a une vie, à mes yeux, qui est courte, et quelqu'un qui a une vie qui est longue. Je peux mettre en danger la vie courte pour une chance de faire vivre la vie longue. C'est le même principe exactement, c'est une chose qui est très claire. Où ça se corse? C'est lorsqu'on a des choix beaucoup plus difficile. Est-ce que on a l'obligation de mettre en danger notre vie pour sauver la vie de quelqu'un d'autre? Je raconte quelque peu des histoires personnelles ou moins personnelles, en tout cas toutes des histoires authentiques. J'avais un copain dans mon enfance, il s'appelait Yossi, je ne vais pas dire son nom de famille par respect pour la famille, copain de mon âge. Et quand j'avais vers 13-14 ans, il est monté en Israël avec sa famille. Et à l'âge de 18 ans, il était à la mer avec un camp, avec sa classe. Mirmoret, c'est une plage ici, près de Natania. Et c'était un excellent nageur. Et un des gosses de la classe a commencé à se noyer. Le sauveteur, le matzil, comme on l'appelle, il avait des chasakés. Les chasakés, c'est une sorte de barquette, comme ça, ils vont debout. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont avec des trucs à moteur. Mais à l'époque, c'était des barques avec des rames, comme ça. Il lui dit, viens, monte rapidement, tu vas m'aider à sauver le type qui est en train de se noyer. Et, effectivement, lui aussi, mon copain, saute à l'eau et a réussi à sauver le type qui s'est noyé. Mais, lui-même s'est noyé et il est mort comme ça, en voulant sauver son ami. Zichrono livracha. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? C'est le droit, est-ce qu'il est obligé de faire ça? Ou au contraire, on va dire non. Qui te dit maintenant de mettre ta vie en danger pour sauver un autre? Un autre cas terrible, je vous raconte, de toute façon c'est beaucoup de cas terribles, hein. Tous les cas que je vous raconte maintenant ne sont pas des cas très... Et là, ce sont les cas très courants dans le peuple juif. Je vous souviens, c'est une histoire terrible, c'était passé il y a 10-15 ans. Une femme qui était connue, une grande tzadekette. Elle faisait beaucoup de conférences sur la Shonara, vraiment une femme très très bien. Elle était en bus avec son mari, ses deux enfants, ses deux petits-enfants. Et le bus passait à l'époque dans Jéricho. Et des Arabes ont jeté une bombe, et le bus a éclaté. S'est mis à brûler. Elle a été éjectée à l'extérieur avec son mari. Ses deux enfants sont restés dedans. Et ils voient le bus en train de brûler. Elle dit, je ne veux pas laisser mes enfants comme ça, je rentre, je vais les chercher. Elle me dit, mais tu n'as presque aucune chance de ressortir vivante, le feu il est terrible. Je ne peux pas, au pire des cas, je meurs avec eux. Elle est rentrée dans le bus et elle est morte avec les deux enfants. Ah, ça fait un grand bruit en Israël. Son mari s'est remarié avec sa sœur. Le père de la fille a dit, tu ne fais pas de nom de famille, tu peux, il n'y a aucun problème. Et ils se sont remariés, ils ont recréé une famille. Est-ce qu'elle a le droit de faire ça, oui ou non? Une autre histoire terrible, je m'excuse, hein, de voir à l'avance encore une histoire terrible. Une histoire absolument terrible aussi. C'était quand j'étais jeune, il y a 20 ans, on va dire, même moins, 15 ans, au collège où j'étudiais. C'est un collège, donc c'est une synagogue. Il y avait plusieurs groupes qui étudiaient, un autre groupe à nous, notre collège, puis il y avait aussi les bâtiments, des gens qui travaillaient la journée, et venaient étudier un peu le soir, etc. Il y avait un père qui vivait avec son fils avait 12-13 ans. Puis un beau jour, le père est quelques jours n'est plus venu, puis il est revenu, mais déjà sans son fils. Alors j'ai appris qu'est-ce qui s'est passé, une histoire terrible. C'est qu'ils sont partis, toute la classe, au bord du lac de Tibériade. Et un des gosses de la classe, ils allaient comme ça au bord de l'eau, et des sables mouvants. Et tout à coup, bloup, un des gosses il disparaît comme ça dans les sables mouvants. Le madrir, leur responsable, voit ça. Il dit, tu sais bien nager, vas-y, va le chercher. Le gosse de 12 ans, il va, il saute aussi. Bloup. Deux. Toi, t'es un bon nageur, vas-y. Troisième, il va, il saute aussi. Bloup. Et le quatrième, c'était ce jeune homme que tu venais dans le collège. C'est un nageur, il a aussi assez, et bloup. Et bloup. Les quatre, à la fin, le madrir a compris qu'après quatre, ça, quand même, ça suffit. Mais ce qu'a annoncé le madrir, bon, c'était pas seulement quelqu'un de très intelligent, mais j'imagine qu'il doit être aujourd'hui mortifié de ces... de cela. Quatrième et dernière histoire pour le moment. Histoire authentique aussi, c'était aussi une quinzaine, une vingtaine d'années. Encore une histoire d'attentat. C'était ici sur la route de Tel Aviv-Jérusalem. Un arabe est rentré dans un des bus. Il y avait un bus, donc sur le bus Tel Aviv-Jérusalem. Il y a un moment, il y a un village qui s'appelle Telstone. Village religieux. C'est une route droite comme ça. Et puis à droite, il y a un grand précipice comme ça. L'arabe, tout à coup, est venu dans le bus, il avait pris le bus déjà à Tel Aviv, et il prend le volant du conducteur, et il fait comme ça pour que le bus, et le bus commence à partir comme ça à droite dans le précipice. Et le conducteur prend dans l'autre sens, et eux se bagarrent, et ils se tiennent à la fin du bus, il part comme ça, et hop, il a dégringolé, il a roulé en bas du précipice, et là, il a pris feu. À Telstone, il y a des chivotes, tous les bachouim, ils ont vu ça, ils sont tous descendus en bas dans la grande vallée, et le bus est en feu. Et des gens étaient injectés du bus. Il y avait une femme qui ne pouvait plus bouger, elle était immobilisée, mais le feu était à 2-3 mètres d'elle. Et elle crie à un des bachouim, viens, sauve-moi, sauve-moi. Et le bachour, il essaye de se rapprocher, il ne peut pas, il y a un feu qui est beaucoup trop grand. Et à la fin, elle a brûlé. Dans quelle mesure maintenant le bachour avait une obligation au mitzvah de se brûler lui-même pour lui sauver la vie à elle? Ce sont des questions qui sont très difficiles, mais hélas, c'est des choses que les êtres humains sont amenés assez souvent, du moins dans le peuple juif, sont assez souvent confrontés à ce genre de dilemme. Et là, il faut connaître la halakha, parce qu'on ne peut pas se tromper. Ça coûte trop cher. Alors, il y aurait trois sources au niveau de la halakha pour trancher et dire qu'il est clair. Donc, au niveau halakhatique, il est interdit de mettre sa vie en danger pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Quelles sont les sources halakhatiques? Vous savez qu'on doit être prêt à mourir si on nous demande de transgresser un des trois péchés graves. Si on me dit maintenant, mange du porc ou je te tue, je mange du porc, c'est aucun problème. Il y a des cas, si c'est en public, si c'est Chilul Hashem, on doit aussi même manger se faire tuer et pas manger de porc, et même pas porter un lacet comme un non-juif. D'accord? Même des fois pour des détails, mieux vaut se donner la mort. Mais en cas normal, alors on se donne la mort que si on nous demande de transgresser un des trois interdits, qui sont idolâtrie, où maintenant tu prosternes à l'idole ou je te tue, tue-moi, agression sexuelle, où tu as une relation, où même tu touches une fille, ou je te tue, je touche pas, Shomer Negiah, ou si on me dit maintenant, tue quelqu'un d'autre ou je te tue. Les deux premières à la halakhot, il y a des versets clairs là-dessus. Le troisième, ce n'est pas marqué clairement, il y a aussi un limoud, mais il y a une svara, c'est-à-dire qu'il y a un raisonnement logique qui dit, pourquoi moi maintenant je vais aller tuer quelqu'un d'autre pour sauver ma vie? Maï chazit, en quoi as-tu vu des damars que ton sang, sous ma ktfé, il est plus rouge que celui de ton prochain? On a le même sang. Pourquoi tu dis que ta vie maintenant passe avant celle de l'autre? Alors on dira dans ce cas-là, qui dit que ma vie à moi passe avant celle, que sa vie à lui passe avant celle de moi? Alors il y a une nuance. Pourquoi? Parce que si maintenant toi tu te lèves pour aller tuer, tu fais un acte, tu te lèves, tu vas tuer. Tandis que si tu es pacifié, on te tue, au moins tu n'as rien fait. Donc mieux vaut mieux vaut être dans une situation où tu es passif, tu ne fais rien, et bon, tu te laisses tuer, plutôt que te lever maintenant à aller tuer pour protéger ta vie. Il n'y a aucune logique à dire que le sang de ton prochain est moins rouge que le tien. Donc c'est interdit. Ça c'est première svara. Deuxième chose, on a une Gemara, Bava Metzia, page 62, nous dit la chose suivante. Ben Petora, selon d'un rave, Ben Petora disait, Si maintenant deux personnes sont dans le désert et ils ont une gourde d'eau qui peut suffire à une personne, s'ils partagent, les deux vont mourir. Si un la garde, un est sauvé, l'autre meurt de soif. Dit Ben Petora, on partage et qu'en aucun cas on soit l'auteur de la mort de notre prochain. Ah, on crève les deux. Mieux vaut mourir les deux plutôt que de tuer l'autre pour vivre. Jusqu'à ce que soit arrivé Rabbi Akiva et qui a appris de la Torah. On a une mitzvah, c'est marqué qu'on doit aider le prochain. Vechay imach, et vivra avec toi. Un pauvre, quelqu'un qui a des problèmes, un misken, quelqu'un, un cas social, tu dois l'aider. Vechay imach, et vivra avec toi. Du mot avec toi, apprends Rabbi Akiva, avec toi, c'est-à-dire qui est avec qui. Quand on dit que quelque chose est avec, il y a un essentiel et un accessoire. Quelqu'un porte un sac à dos. Je suis avec le sac à dos ou le sac à dos est avec moi? Hein? Il y a des sandwichs. Le sac à dos est avec moi. Je suis sous mes lunettes ou mes lunettes sont sur moi? Non, je veux dire, c'est faux, je suis sous mes lunettes. N'est-ce pas? Si je porte le roi, je veux dire, je suis sous le roi. Je supporte le roi. Parce que je suis accessoire au roi. Mes lunettes sont accessoires à moi. Celui qui est avec est toujours accessoire de celui avec qui on est. Donc, vu que c'est marqué dans le verset, Ha'imar, il vivra avec toi. Qui est l'accessoire à qui? Qui passe avant, lui ou moi? Moi. Vechei achicha, ton frère vivra avec toi. Ton frère passe après toi. Dit Rabbi Akiva, tu gardes ta gourde, tu la bois, tu vis et lui meurt. Ainsi est l'obligation de la halakha.
Verset, il est avant.
Oui, mais c'est marqué avec. Qui est avec qui? On regarde pas au niveau qui est marqué avant. On ne voit pas le mot qui est marqué au niveau chronologique. On parle de Imar. Imar signifie avec toi. C'est-à-dire quoi avec toi?
Je sais pas, les deux personnes sont ensemble. Avec...
Qui a dit ensemble? Pas dit ensemble. C'est pareil. Vous vivrez, si le verset avait dit vous vivrez ensemble, t'as raison. Il vivra avec toi. C'est fin, mais c'est pas si fin que ça non plus. Tu peux comprendre ce que je dis. Quelqu'un qui est avec, il est accessoire à celui avec qui on est, qui est l'essentiel. Donc moi, j'ai pas maintenant à mettre en danger ma vie pour sauver la vie de mon prochain. Il y a une troisième sfara. C'est le Beit Yosef qui écrit comme ça, le Rabbi Yosef Karo, il écrit comme ça. C'est marqué, on a en fait deux mitzvot qui se cognent. La mitzvah, ve chay bahem. Voici les mitzvot que l'homme fera, ve chay bahem, et vivra en elle. De là, on apprend qu'on doit vivre. Shechay yachye bahem, lo yamut bahem. Qu'on doit vivre dans les mitzvot et pas mourir dans les mitzvot. Les mitzvot ne sont pas donnés pour qu'on meure, sont donnés pour qu'on vive. Donc, chaque fois qu'il y a une mitzvah qui vient et qui me dit maintenant ou ça ou la mort, je dis, je préfère transgresser la avera, le péché, et pas mourir. À part les trois cas graves qui sont des enseignements spéciaux. Mais à part cela, comme je dis, quelqu'un me dit de transgresser n'importe quel interdit de la Torah, ou on me tue, je transgresse l'interdit. Pourquoi? D'où on apprend cela? Avec Chaybaim. Tu vivras dans les mitzvot et pas tu mourras dans les mitzvot. Mais il y a un autre interdit, qui est Velot Amod Adam Reich. On n'a pas le droit, on en a parlé la dernière fois aussi, l'otamod, tu ne seras pas impassible, l'otamod aldam recha, face au sang de ton prochain. Appelons en français, non-assistance à personne en danger. D'accord? Interdit de la Torah. Tu n'as pas le droit de voir le sang de ton prochain couler, maintenant tu fais rien. Interdit. Alors maintenant, ok, j'ai une mitzvah, je vois quelqu'un en danger. Mitzvah de l'aider. Non-assistance à personne en danger, c'est interdit. Je dois lui porter assistance. Mais en lui portant assistance, je rentre dans un autre interdit, vers Chaybaim, que je dois viser dans la mitzvot et pas mourir. Là, la Torah, elle se cogne. Dit le Beit Yosef, vu qu'on a une mitzvah de vers Chaybaim, de viser dans la mitzvot, et que vu la mitzvah de Chaybaim, elle repousse toutes les mitzvot, à part les trois averot graves, elle repousse aussi la mitzvah de l'otamod, aldam recha. C'est tout simple. Donc, dans tous les cas, quand il s'agit de ma vie ou la vie de mon prochain, ma vie passe avant. Il y en a qui disent que c'est que dans le cas où c'est un et un. Si c'est un et plusieurs, alors on est obligé. Pas tout le monde est d'accord là-dessus. La preuve qui ramène, c'est une Gemara Dans Taanit, il y avait deux juifs que c'est marqué que Olam Haba, tellement ils sont lumineux qu'on ne peut pas les regarder. Quelque chose comme ça, un truc extraordinaire, tellement ils sont deux êtres lumineux dans Olam Haba. Un s'appelait Lulianus et l'autre s'appelait Papus. Lulianus et Papus, qu'est-ce qu'ils ont fait ces deux? La fille du roi a été tuée. Et on a accusé bien sûr les juifs. Et le roi a dit, je vais tuer tous les juifs. Lulianus et Papus sont venus, deux juifs, ils ont dit, non, c'est nous qu'on l'a tué. C'est pas eux. Ils se sont portés soi-disant coupables du meurtre de la fille. On les a tués et eux sont allés à un niveau très très haut dans Olam Haba. Donc tu as une preuve ici que pour sauver une communauté de juifs, deux personnes peuvent aller maintenant se tuer pour la communauté. Et ils arrivent à Olam Haba, un degré extraordinaire. C'est une bonne. Enfin, mon chef Einstein, il dit oui. Tu peux apprendre, il y a nous, c'est pas pousse, qu'effectivement, on peut maintenant, peu de gens peuvent aller se mettre en danger pour sauver beaucoup de gens. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord avec lui, disant que qui te dit maintenant que la preuve que tu amènes, elle est bonne? Pourquoi? Parce que eux, peut-être, ils étaient déjà passibles de mort. Mais si quelqu'un n'est pas passible de mort, de quel droit il se donne la mort? Alors moi, je vais faire une chose pour répondre, oui, mais qui te dit que non? Qui te dit que ça aurait été différent? En tout cas, on n'a pas de preuve ni là, ni là. C'est pas clair du tout. Si c'est un pour plusieurs. Qu'est-ce que c'est maintenant, votre question, quand il y a ici un doute? Lui, j'ai des chances de le sauver, mais quand je me mets en danger pour le sauver, c'est pas certain que je mets ma vie en danger. Il y a un certain pourcentage. Est-ce que je dois maintenant, est-ce que c'est permis, c'est une mitzvah, est-ce que c'est interdit, de mettre ma vie en danger pour aller sauver quelqu'un d'autre, sachant que lui est plus en danger, on appelle ça la sakana vadaït, lui il est en danger clair, et moi je suis en safek sakana, en doute de danger. Chez moi il y a peut-être un danger. Est-ce que j'ai le droit de me mettre peut-être en danger pour sauver quelqu'un d'un danger évident? Marloket. Discussion entre les grands poskim d'antan, mais aussi la halakha va trancher pour finir. Le Beit Yosef dit oui. Tu es obligé de te mettre un peu en danger pour sauver, pour ôter quelqu'un d'un danger évident. Alors il dit comme ça le Beit Yosef. Il dit, toi, tu te mets que en doute de danger. C'est pas certain que tu vas mourir. Par contre, si tu ne fais rien du tout pour l'assister, c'est évident qu'il va mourir. On a une loi en la Torah. Quand tu as un safek et un vadaï, tu as un doute et tu as une certitude, eh ben, la certitude a plus de poids. Donc on va te dire maintenant, rentre en safek danger pour sauver quelqu'un. De plus, on sait que sauver quelqu'un, c'est pas une petite mitzvah. C'est marqué tout celui qui sauve une personne, c'est comme s'il a sauvé un monde entier. Donc maintenant, il s'agit maintenant de sauver un monde entier. On t'ordonne de te mettre en peut-être danger pour sauver la personne. Donc le Bachur Yeshiva qui était près de là aurait dû se brûler, en tout cas arriver à un danger de se brûler déjà passablement, pour sauver cette femme, d'après le Beit Yosef. Le Chavot Yahir, un grand possède qui a environ 2-3 siècles, dit la même chose. Il amène une autre source. Lui dit, la Gemara dont on a parlé auparavant, celle de la gourde. La Gemara dit bien, si maintenant on partage la gourde, les deux on meurt. Si je garde la gourde, je vis et l'autre il meurt. Il dit, de quoi on parle? Que si on partage la gourde, les deux vont certainement mourir. Mais tu apprends de cela dans un cas différent que c'est pas certain que les deux vont mourir. Si on partage la gourde, les deux on va peut-être mourir. Peut-être oui, peut-être non. La Gemara n'a pas parlé de cela. Si la Gemara voulait m'enseigner le plus grand enseignement, qu'est-ce qu'elle m'aurait dit? Elle m'aurait dit, même dans le peut-être, tu la gardes. Vu qu'elle m'a dit que non, seulement si c'est dans le cas certain où les deux vous mourrez, si vous partagez, là, interdiction de partager. Ah, dans un cas où c'est pas certain les deux qu'on meurt, on est obligé de partager. Ah, peut-être on va peut-être les deux mourir, ce n'est qu'un peut-être. Donc d'après ces deux grands poskim, on doit mettre notre vie en danger pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. D'autres poskim, dont beaucoup de contemporains, vont dire non. Le premier, c'est Pitre Tshuva. Pitre Tshuva, c'est un recueil de poskim d'il y a 2 siècles environ, mais il ramène beaucoup, beaucoup de Tshuva, de responsables, de rabbanim de son époque et un peu avant son époque. Il amène la preuve suivante. Il amène une Gemara dans Nida qui dit comme ça. Rabbi Tarfon, un jour, se sont présentés chez lui des juifs qui étaient en fuite. Qu'est-ce qui se passait? Ils étaient recherchés par le roi qui s'est accusé d'être assassin. Ils ont assassiné. On les a accusés, c'est pas certain qu'ils sont vraiment des assassins. Ils demandaient, ils sont allés, le Rabbi Tarfon, c'est un grand tzaddik, il va sûrement nous protéger, il va nous mettre chez lui à la maison, et il va nous planquer en attendant que... Bon, ils arrivent chez Rabbi Tarfon, Rabbi Tarfon dit, mais si jamais le roi apprend que je vous ai planqué, moi je risque la tête, il va me couper la tête. Et oui, évidemment. Mais dans ta chaîne, ils ne trouveront pas, avec ton srout, ça a été... Non. Non. Désolé. Allez vous planquer autre part. Donc on voit que Rabbi Tarfon, c'est l'alakha, il refuse de se mettre en danger sa vie pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Le Bitre Tshuva, qui amène l'histoire de Rabbi Tarfon. Tu as beaucoup de contemporains qui sont d'accord avec le Rav Tzitz Eliezer, c'est un grand possèque actuel, Minchat Yitzhak, Minchat Yitzhak, c'est le roche du Badat. Eux, ils disent, à partir de cette Gemara-là de Rabbi Tarfon, qu'on n'a pas le droit de se mettre en danger pour sauver la vie de quelqu'un. Donc, contre le Beit Yosef. La Lacha, on a un problème. On a ici des preuves d'un côté, de l'autre côté. La Lacha est tranchée par le Rav Wozner, lui dit comme ça. Tout dépend, en fait, du pourcentage de danger. Si on te dit maintenant, mets-toi en danger pour sauver quelqu'un qui est en danger. On va appeler mon danger numéro 1. Son danger à lui, numéro 2. Si 1 est égal à 2, il n'y a aucune raison. C'est pas logique que je mette moi en danger aussi grand que lui pour aller le sauver alors qu'on est à égalité. À plus forte raison si le danger 1 est plus grand que le danger 2. On va dire quelqu'un un très bon nageur qui est en train de se noyer, on va mettre un mauvais nageur pour le noyer, ou bien, quelqu'un qui est très 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 gros, hein, qui est en train de couler, et moi qui ne suis pas très gros, d'accord, je vais avec mes petits biceps le sauver, c'est pas intelligent, j'ai beaucoup plus de chances que les deux on y passe plutôt que 1. Donc c'est complètement idiot. Si c'est un petit danger que tu prends pour sauver quelqu'un d'un grand danger, là c'est obligatoire. L'autre a un mot d'Adam Recha. Tu ne resteras pas impassible face au sang de ton prochain.
C'est un petit danger, vous parlez du risque ou vous parlez du danger lui-même?
Le risque, le danger en lui-même, peu importe, le risque.
Alors pourquoi Rabbi Tarfon dans ce cas-là, lui, il n'aurait pas...
Rabbi Tarfon, il a dû voir qu'il y a beaucoup de chances que le roi l'attrape ayant planqué ses assassins, donc il y avait de fortes chances qu'ils fassent tous attraper et terminer.
Non, mais lui, plusieurs...
Nous, on est en train de regarder entre le danger du sauveteur et le danger de la personne la passant en danger. Moi, je suis Rabbi Tarfon, vous venez chez moi maintenant. Si je ne vous sauve pas, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la chance de danger on va dire, vous avez 80% de vous faire attraper. Maintenant, si moi, je vous prends chez moi, l'Alakha dit, je ne suis pas obligé de vous prendre si le danger dans lequel je me mets, il est égal au vôtre. Donc, il faut dire que lui aussi, ouais, donc lui, en les prenant, il a aussi 80% de danger.
Il a autant. S'il les prend,
il a autant. Voilà. 80%.
Mais tant qu'ils sont dans sa maison.
Non. Dans sa maison, oui, bien sûr.
Il meurt.
Ouais.
Donc il est au même danger qu'eux.
Voilà.
Parce que c'est, eux, ils vont se faire tuer s'ils sont pris et lui s'il...
En plus, ça c'est un autre calcul, que peut-être on au lieu de... En plus, le pourcentage il est égal, et en plus, il y aura plus de gens morts. Ça peut être un autre calcul. C'est intéressant, ce que tu dis maintenant.
En les prenant, ils sont au même...
Si en les prenant, il était juste passible de prison, etc., peut-être que c'était pas le même...
Là, il est obligé. Voilà.
S'il sait qu'il va mourir en les cachant, alors voilà, mais le fait qu'après il y aura quoi...
Mais c'était 20% de chance. Si lui maintenant, en venant chez lui, on va prendre l'autre côté. Si lui maintenant, en prenant chez lui, Rabbi Tarfon, il est copain avec le roi, jamais les flics vont venir chercher chez lui. Très peu de chance. Il y a 30% de chance, on va dire. D'accord, c'est beaucoup, 30% de mourir, c'est beaucoup. Mais eux, s'ils les laissent dehors, il y a 30% de chance qu'ils vivent, 60% de chance qu'ils meurent. Dans ce cas-là, c'est un très grave problème. Et là, personne ne peut trancher. Le corps nous pouvons trancher, c'est quelque chose comme ça, 10% et 90%. En plus, c'est moi qui dis, d'accord, moi, les textes qui sont marqués, c'est peu, hein, ils ne savent pas c'est quoi peu. Ils disent, si maintenant il y a peu de danger, et par le peu de danger, tu peux sauver quelqu'un d'un grand danger, tu es obligé. Si c'est égalité, c'est certain que tu n'es pas obligé, c'est même interdit. Ils disent, tu n'es pas obligé et même peut-être interdit. Comme ça, ils disent. Donc, si c'est entre les deux, alors on tombe à Marloket, entre Beit Yosef et le Pitre Tshuva. Baruch Adonai Olam Va'Amen.